une autre là aussi.
J'ai pris des grosses, c'est pour vous impressionner, non, c'est pour que vous les voyez du fond. Vous en avez, je pense, de plus maniables, j'espère pour vous. Alors, j'ai plus tout à fait en tête la suite de la projection, donc je tâtonnerai comme je pourrai. Donc, je voudrais nous proposer ce matin quelques points de repère à propos des traductions bibliques dont nous disposons en français. En voici d'autres. Comme la semaine passée, ça va être pareil et différent. Comme la semaine passée, je vais, en tout cas en première partie, je vais vous donner plutôt plus de l'enseignement, des informations, plutôt qu'une exhortation. Et puis ensuite, j'aimerais laisser quelques mots pour dialoguer avec vous. Si vous avez des questions, des choses à dire à propos de ce que j'ai dit, ça sera le moment. Et puis, à la fin, j'essaierai de conclure, plutôt par une invitation, une exhortation. Et vous voyez, ça c'est le plan. Donc, vous voyez, c'est très... Pour entrer dans le... Alors, je vais parler d'abord de la traduction. Qu'est-ce qui se passe quand on traduit? Et puis ensuite, je parlerai des traductions françaises, de quelques-unes. Et puis donc, ce sera ensuite les questions. Et pour entrer dans le vif du sujet, je vais redire des choses qu'on a pu dire en études bibliques, peut-être pour ceux qui y étaient. Un texte biblique... qui nous est parfois si familier pour plusieurs d'entre nous, qu'on pourrait même citer les mots grecs qui sont employés. Et c'est le début de l'évangile de Jean, c'est le premier verset, que je lis dans la Bible dont un exemplaire est projeté à côté, la Nouvelle Bible Second. Au commencement était la parole. Voilà une première traduction. Mais voici d'autres traductions. Au commencement était le Verbe. Donc là, c'est la Tobe. Et puis il y a aussi la Bible de Jérusalem qui propose ça. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Bible du Semeur, donc c'est une autre traduction. À chaque fois, je donne des noms, c'est des noms d'autres traductions. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Et puis enfin, la Bible dite en français fondamental, au commencement, la parole existait déjà. Et c'est le texte que j'ai lu tout à l'heure. J'ai choisi cette traduction tout à l'heure. Voilà. Bon. Voici à présent le texte original. Alors vous le voyez tout de suite, c'est du grec, puisque ce que nous appelons le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alors c'est la façon dont on le décrit aujourd'hui, parce que si vous prenez les manuscrits anciens, parenthèse, vous avez plutôt ça. Remarquez au passage, j'y reviendrai un autre moment, mais qu'il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de minuscule, bon ça vous pouvez pas le savoir, qu'il n'y a pas d'espace entre les mots, donc le premier mot ici, il est ici. Ici, c'est ce mot-là, on reconnaît cette lettre-là, on la reconnaît ici. C'est la même lettre ici et ici, c'est la même lettre ici et ici, enfin bref. Donc le texte original, les copies anciennes que nous avons du texte original, ça ressemble plutôt à ça. Mais je vais vous mettre ça en français, enfin en transcription française. Donc si on écrit les lettres grecques en français, ben la plupart se retrouvent. Hein. On a le E, ça c'est un N, N, arché, N, O, logos. Voilà, logos, ça c'est un L, O, G, O, S. Bon, bref, donc voilà le texte, voilà quelques traductions, il y en a d'autres. Hein. Maintenant, je vous mets le texte sans les traductions, mais avec dessous le dictionnaire. Donc, vous savez le grec, c'est formidable, vous avez accès au dictionnaire, et bien vous prenez un dictionnaire. Là, c'est le Bailly qui est un volume encore plus épais que la plus grosse Bible que j'ai ici. Donc, voilà. Et donc, on prend chacun des mots, N, arché, c'est ici, voilà, et puis les équivalents dessous. Donc, N, ça veut dire, on peut traduire dans, en, dedans, bon, etc. Vous prenez chacun des mots et dessous, vous avez des propositions de traduction. Ça m'amène à... J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Hein. Mais ce qui apparaît d'emblée, pour moi, en superposant le dictionnaire avec chacun des mots, et c'est une partie du dictionnaire, j'ai mis trois petits points, c'est parce qu'il y en avait d'autres, je vous ai épargné ça, c'est qu'en fait, un mot grec n'a pas d'équivalent exact en français. Et en fait, c'est vrai pour toutes les langues. Donc, j'entends que Bernard cherche une feuille de papier. Pas tout. Alors, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le texte aussi. Donc, voilà, si ça vous aide, si ça vous tranquillise de savoir, ça vous empêche pas de prendre des notes, si vous voulez, mais si ça vous tranquillise, je peux vous envoyer mon texte. Et puis, je suis désolé aussi pour ceux qui n'auront que l'enregistrement, parce qu'il y a des choses qui vont se passer en vidéo, là. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui apparaît d'emblée en superposant, c'est qu'un mot grec n'a pas d'équivalent exact, unique, en français. Mais en fait, c'est très, très ordinaire. Si vous parlez une autre langue, si vous parlez un patois, même un patois, ben, quand vous cherchez à traduire du français au patois ou du patois au français, ben, vous ne trouvez pas forcément le mot exact. Parfois, vous en choisissez un. Parfois, vous en prenez un autre. Ordinairement, dans toutes les langues, c'est pas un mot d'une langue A n'a pas d'équivalent exact dans une langue B. À l'exception de termes plutôt techniques, de termes techniques spécifiques. Je suis parfois amusé, vous aussi peut-être, parfois en écoutant quelqu'un qui est au téléphone dans le métro peut-être et qui parle une langue que je ne connais pas, et tout d'un coup j'entends le mot logiciel qui apparaît ou un truc comme ça, ou train, bon, parce que le mot n'existait pas, donc on prend le même. Donc, premier élément important, une langue n'est jamais le décalque exact d'une autre langue. Et conséquence, eh bien, c'est tout simple, quand on traduit, on va faire des choix. On peut pas, on est bien. Et vous voyez ici les choix qui sont faits sur la, par exemple. Ici, je prends le premier mot, enfin pas le premier mot, mais je prends le mot commencement. Ici, on choisit commencement. Pourquoi? Eh bien, en général, ce qui permet d'arbitrer, ce sont des questions de contexte. Ça, c'est la règle d'or. Ici, Jean, en fait, est en train de reprendre les premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on se dit qu'il y a une idée temporelle. Alors, et du coup, on choisit le mot commencement. Alors, peut-être il n'y a pas que ça. Parce qu'en fait, quand on a ici, je sais pas, je le vois pas, si principe. Principe, c'est pas forcément une idée temporelle. En principe, voilà ce qui se passe. Là, c'est pas forcément une idée. C'est une idée d'origine, mais pas forcément une idée d'origine temporelle. Mais au bout du compte, il faut faire un choix. Donc, on choisit commencement. Ça paraît le meilleur choix. Et vous voyez, enfin, vous voyez parce qu'il est projeté. Mais si vous prenez d'autres traductions françaises, c'est ce mot-là, commencement, qui est choisi généralement par toutes, je pense. Petit détail. Dans le texte grec, vous voyez, enfin. Vous voyez pas, en fait, il n'y a pas de... Ici, il y a un article. Ça, c'est l'article défini, le là. Mais ici, quand il y a... L'article indéfini n'existe pas. En fait, quand on ne met pas l'article en grec, ça veut dire un. Si vous voyez le mot chien et qu'il n'y a pas d'article devant, ça va être un chien. Si vous voyez ce mot devant, vous allez dire c'est le chien. Normalement, en grec, on aurait attendu, si c'était un nom défini, un article. Donc, dans le commencement, littéralement. Mais en prenant le texte tel quel, on pourrait traduire dans un commencement, et non pas dans le commencement. Alors évidemment, quand on traduit au commencement, on ne se pose pas la question. Il y a peut-être un article défini ou indéfini, ça se voit pas. Donc c'est très bien. Et en plus, c'est un calque à peu près exact du texte grec, donc c'est parfait. En même temps, alors qu'il n'y a pas d'article indéfini, dans l'origine, donc il faudrait traduire littéralement dans un commencement, mais on sait bien que, enfin, on se dit à cause du contexte, encore une fois, que là on parle de l'origine absolue, et il n'y en a qu'une. Donc on traduit, si on devait traduire autrement que au commencement, on traduirait dans le commencement, parce qu'on pense bien que là il s'agit du commencement de tout. C'est pas le commencement de l'année dernière, quoi. On nous parle d'un être qui était avec Dieu, qui a tout créé. Donc ça, c'est pas au commencement de l'année dernière, il a été la parole. Non, non, ça c'est bien, bien avant. Là encore, c'est parce que le contexte nous présente cette parole et nous dit qu'elle était avec Dieu, qu'elle a tout créé. On se dit, ça peut être que le commencement de tout. Mais une expression identique, on la trouve par exemple plus loin dans l'évangile de Jean. C'est dans Jean 8. On demande à Jésus, qui es-tu, toi? Et Jésus dit, ce que je vous dis depuis le commencement. Et là, il faut comprendre, je crois, qu'en fait, c'est depuis le commencement du ministère de Jésus. C'est ce que je vous dis à vous depuis le commencement. Donc, ils parlent bien des commencements où ils étaient là, eux aussi. Là encore, c'est une question de contexte. Donc, les mots en soi peuvent être rendus différemment. Voilà pour le mot commencement. Et puis, pour le dernier mot, le logos, le fameux logos, plusieurs possibilités de traduction. Le choix habituel, vous voyez, c'est le mot parole, ou bien verbe, avec des majuscules. Dans le texte original, il n'y a pas de majuscules. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon pour dire la même chose, c'est que le contexte nous parle de quelqu'un, enfin d'une parole qui était au commencement avec Dieu, qui a tout créé. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, cette parole. Quand on emploie le mot parole, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en tout cas, quand on comprend qu'on parle de quelqu'un qui était avec Dieu, on dit, là, je mets une majuscule à parole. Je ne sais pas trop ce que Jean veut me dire, mais là, on parle de quelqu'un avec une majuscule. Donc, je crois qu'il faut entendre que Jean veut nous faire sentir un mystère. Il l'emploie pour parler de cette personne qu'il va présenter, une expression inhabituelle, la parole. Mais cette personne, il faut un P majuscule à personne, à parole. Après, est-ce qu'il faut choisir entre parole, est-ce qu'il faut choisir verbe, est-ce qu'il faut choisir la raison, la faculté, bon bref, etc. Là encore, on fait un choix. Il n'y a pas d'équivalent exact en français. Il n'y a pas qu'un mot en français, on fait un choix. On pèse des probabilités et on choisit ce qui paraît le plus probable. Ce qui veut dire, deuxième chose, que traduire, eh bien c'est interpréter. Nous avons, avec nos Bibles, des interprétations, des traductions. On n'y échappe pas, à moins de lire le texte original, mais là, il faudrait pouvoir parler la langue originale comme on parle en français. Hein, donc ça, je ne connais pas beaucoup de monde qui sait le faire. Je ne sais pas faire. Hein. Donc, il y a un proverbe italien, je crois. Je vais pas oser le dire en italien, surtout que j'ai oublié. Enfin bref, en français ça marche très bien. Traduire, c'est trahir. Traduttore ou un truc comme ça. Voilà. De fait, on ne peut pas rendre les choses à l'identique. C'est juste pas possible. Et je crois que peut-être il vaudrait mieux dire en fait traduire, c'est choisir. Voilà pour ce que je voulais dire comme première étape. Je passe à la deuxième. Votre Bible, si vous en avez une, et si vous n'en avez pas, eh bien nous pouvons vous en donner à la fin du culte. Non, voilà, n'hésitez pas à demander, vraiment. Voilà. Donc votre Bible, c'est donc une traduction. Et c'est un ensemble de choix. Et je pense qu'il y a environ, aujourd'hui, pour le français, il y a environ une trentaine de traductions en circulation aujourd'hui. Complètes ou bien partielles, mais la plupart sont complètes. Alors, pour savoir laquelle c'est. Alors on pourrait se dire, ben attends, je vais regarder la couverture, bon là c'est marqué dessus, donc mais c'est pas évident, parce qu'en fait ça c'est exactement la même traduction, mais vous voyez c'est pas le même format, c'est à peu près on a le même signe, la même symbolique dessus, mais on pourrait dire c'est deux bibles différentes, non c'est la même. Donc voilà, si vous regardez la couverture, là vous dites, mais c'est quelle traduction ? Ben c'est pas marqué dessus. Donc votre mission, si vous voulez savoir quelle version vous avez, c'est d'ouvrir la Bible, et puis d'arriver à ce qu'on appelle à peu près la première page. Voilà, enfin, la première, parce qu'il y a parfois des cartes où je ne sais pas si c'est exactement la première. Oula, ça m'a l'air un peu fragile, ça. Donc, voilà, je tourne les pages, je tourne, et puis j'arrive à une page à peu près comme ça, une page de garde, on va dire, comme ça. Et là, on voit, on lit ce qui est marqué. Donc, par exemple, ici, eh bien, je lis, c'est celle-là, donc, je préfère le prendre ici. La Bible de Jérusalem, donc, la Bible traduite en français sous la direction de l'école biblique de Jérusalem, donc, qui est une institution qui est à Jérusalem de biblistes, donc voilà. Donc, Bible traduite par des auteurs francophones à Jérusalem. C'est la Bible de Jérusalem. Ou bien, si je prends un autre exemple, eh bien là, c'est la Bible traduite, alors j'arrive pas à lire ça. C'est la Bible traduite des textes originaux par Louis Segond, donc c'est la Bible Segond, nouvelle édition de 1979. Donc vous savez là que vous avez la Bible dite Segond. Une trentaine de traductions, donc. Pourquoi il y en a 30 ou il y en a 29, ça ne change rien. Quelle différence entre elles? Eh bien, il y a plusieurs différences qu'on peut citer. La première, c'est d'abord leur âge. Certaines sont anciennes et sont toujours en circulation. En voici une, par exemple. Donc, c'est la Bible traduite par Monsieur Darby. Parce que c'est pas la Bible qui a été écrite par Darby. Non, c'est la Bible traduite par Darby. La version seconde, qui était juste avant, donc c'était l'édition de 1979, c'est la première traduction, c'est en 1910. Et il y a plus d'un siècle, hein, je réalise en vous parlant. Et donc, plus le temps passe, eh bien, plus il y a de nouvelles traductions, ou bien des révisions des traductions. Alors, pourquoi on fait de nouvelles traductions? Ben d'abord parce qu'une langue évolue au fil du temps. Il paraît que le sens d'un mot change tous les 20 ans. Alors, ça vous paraît beaucoup, mais voilà. Bon. Et puis, on sent bien, quand on lit certaines traductions, qu'elles sont datées, qu'on parle, on s'exprime pas spontanément comme ça aujourd'hui. Donc, on fait de nouvelles traductions parce que le français a évolué, et puis donc on traduit dans un français qui soit accessible à la plupart. Ou bien, donc, on révise des traductions anciennes. C'est le cas, par exemple, de ces Bibles. Ces Bibles-là, c'est les mêmes. Enfin, c'est la révision de la version seconde 1910. Donc là, il y a plusieurs versions. La Colombe, la nouvelle Bible seconde, qui est sortie vers 2010, je crois. Celle-ci aussi, à peu près à la même époque. En fait, là, elles ont été traduites en même temps, mais il y a deux sociétés qui sont concurrentes et qui ont publié et qui ont fait chacun leur travail. Enfin, bref. Donc, il y a des révisions de traduction. Ça, c'est une première chose. Enfin, donc, leur âge, de nouvelles traductions, des révisions de traductions anciennes. Et puis, il y a aussi des traductions qui sont faites aussi spécifiquement à destination de certains publics. Voici, par exemple, la Bible Parole de Vie. C'est la même que je vous ai lue tout à l'heure. Vous voyez, moi, j'ai pas la même couverture. J'avais acheté à l'origine quand c'est sorti. Et celle-là est plus récente. Donc, la maquette n'est pas la même. Donc, cette Bible Parole de Vie, je trouve intéressante. Parce qu'elle a été faite à l'origine à l'intention de personnes dont le français n'était pas la langue maternelle. Donc qui apprenaient petit à petit à essayer de parler français. Donc ça va très bien pour des personnes dont le français n'est pas la langue maternelle. À destination des enfants aussi, c'est tout à fait adapté. J'illustre davantage, elle se sert de 3000 mots de français, pas plus. Les mots qu'on emploie, ce qu'on appelle le français fondamental, comme en anglais il y a l'anglais fondamental, enfin dans toutes les langues, il y a un ensemble de mots qui sont communs à tout le monde, à peu près. Elle n'utilise que le présent et l'imparfait. Donc il n'y a pas de passé simple, etc. Voilà, donc des traductions, parfois certaines sont faites, visent certains publics. Et puis il y a des traductions aussi on pourrait classer aussi entre celles qui ont été faites intégralement par la même personne. Je ne sais pas ce que c'est ça. Par exemple, la version Darby a été faite par Monsieur John Nelson Darby à la fin du 19e siècle. Et la version Second a été faite par Monsieur Second en 1910. Donc là, c'est un seul traducteur qui traduit l'ensemble. Et puis il y a celles qui sont faites par des équipes. C'est le cas de la plupart des traductions françaises aujourd'hui, celle-ci. Même la révision de la version seconde a été faite par des équipes. Voilà. Etc., etc. Voilà trois façons déjà de se repérer. Mais c'est pas le plus important, et le plus important c'est maintenant. C'est qu'en fait vous avez le choix globalement entre deux styles de traduction, deux types de traduction. Alors, je vais employer un langage maintenant technique. Vous allez voir, c'est limité. Donc, il y a les traductions dites à équivalence formelle. C'est le mot « forme » qui est important. On parle parfois de traduction littérale. Et puis, il y a des traductions dites à équivalence dynamique. Je vais venir sur chacune d'entre elles. Donc, dans une traduction à équivalence formelle ou littérale, eh bien... Enfin, dans toutes les traductions, on cherche à rendre le sens et la forme. Dans une traduction à équivalence formelle, on cherche à rendre le sens, mais en restant le plus près possible de la forme, de l'original. On essaie de calquer l'ordre des mots, voilà. Et dans notre passage, donc je reviens sur l'évangile de Jean, Ah, du coup, j'ai une diapo en trop. Voilà. Littéralement, dans un commencement était la parole. Au commencement était la parole. On garde, on colle à l'ordre des mots dans l'original. Là, on le garde. Là, c'est un des cas où on peut le garder. C'est pas toujours le cas. Autre façon de faire aussi, on essaie de garder, quand on traduit un mot, par exemple ici, ce mot-là, quand on le rend par parole, eh bien, quand ce mot-là, on le rencontrera plus loin dans l'Évangile, en fait, on le trouve pas, mais bon. Si on le trouvait plus loin, on essaierait de le rendre aussi par parole. Donc, chaque fois, mettre le même mot pour que le lecteur comprenne, hein, mais c'était le même mot que dans l'original, dans ces deux passages. Donc, on reprend la forme, on essaie de reprendre les mêmes mots à chaque fois pour traduire. Qu'est-ce que j'ai voulu faire, là ? Voilà, c'est ça. On essaie. Parce que c'est juste mission impossible. En grec, par exemple, c'est comme en allemand. Les phrases ne sont pas écrites dans l'ordre sujet, verbe, complément. Le chien, sujet, mange la pâtée, complément. On peut avoir en grec, la pâtée mange le chien. Voilà. Mais en fait, c'est la terminaison des mots comme, qui permet de comprendre le rôle qu'un mot joue dans la phrase. On sait à la terminaison du mot. Si vous avez fait du latin, pour ceux qui ont fait du latin, qui ont subi encore le latin, pour ceux qui sont aussi vieux que moi, c'est votre cas. Rosa, rosa, rosam. Voilà, vous avez écouté Jacques Brel qui nous chante ça par cœur. Rosa, c'est le nom, et puis rosam, c'est l'accusatif, c'est le complément. Voilà, donc. Voilà. Donc du coup, les mots en grec peuvent être à peu près n'importe où. Et en allemand, donc je reviens sur l'allemand, ben, en allemand, les verbes sont à la fin de la phrase. Et ce qui est très bien d'ailleurs au passage, petite parenthèse, parce que pour comprendre ce que la personne veut dire, il faut attendre qu'il ait fini de parler. Un bon exercice. Je reviens sur l'exemple de tout à l'heure. Alors là, ça n'illustre pas ce phénomène, parce qu'ici, on reproduit à l'identique l'ordre des mots en grec. Mais par contre, juste après, on lit la chose suivante. On lit « Et Dieu, je vous le mets en transcription, était la parole. » Or, ici, dans la traduction qui est là, on voit bien qu'on a rendu le sens. La parole était Dieu. Donc, on n'a pas ordonné les mots de la même façon. Voilà, littéralement, c'est ça. Et voilà comment on a traduit en français. On a rétabli l'ordre correspondant au sens en français. Voilà pour la traduction à équivalence formelle. Donc on essaie de calquer le plus possible, de rester le plus près de l'original, mais parfois on peut pas. Et là, en l'occurrence, on peut pas. Alors, parmi les traductions à équivalence formelle, eh bien, il y a par exemple la version Darby. Voilà, il y a la version Second. Et toutes ces différentes révisions, voilà une par exemple. Donc, équivalence formelle, on essaie de serrer aussi près que possible la forme de l'original, d'épouser sa façon de dire. On essaie. Traduction à équivalence dynamique. Alors là, on va essayer aussi de ne pas trop s'éloigner de la forme, hein, mais on va privilégier le sens. On va essayer de rendre le sens d'abord. Le sens tel que le traducteur le comprend, bien sûr. Donc la traduction pourra être plus libre par rapport à l'original. Et c'est pour cette raison que je reviens au texte de tout à l'heure, que c'est la Bible du semeur. La Bible du semeur traduit « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu ». Alors je connais le traducteur, mais je ne t'aurais pas posé la question, mais l'hypothèse que je fais, c'est qu'en fait, probablement, bon, alors quand on est familier du texte, on ne se pose plus la question. Mais celui qui lit ça pour la première fois, qui lit « Au commencement était la parole », mais il dit « Mais c'est quoi cette parole qui était au commencement ? » On parle de quoi ? C'est quoi cette parole avec un P majuscule ? C'est quoi la parole ? C'est quoi ? C'est qui ? Et peut-être pour aider le lecteur pas trop se poser cette question, on traduit celui qui était la parole. Parce que quand on continue le texte, eh bien, on parle de quelqu'un. Donc on met tout de suite celui qui est la parole. Le lecteur comprend tout de suite qu'on parle de quelqu'un. Voilà. Elle choisit de préciser en disant donc, voilà, on parle de quelqu'un. Autre traduction, c'est la Bible en français fondamental, qui, elle, ne laisse le texte tel qu'il était, au commencement la parole, mais elle précise existait déjà. Peut-être parce que quand on lit au commencement était la parole, ben peut-être qu'on se dit au moment où le commencement commence, la parole apparaît elle aussi. Mais en disant la parole existait déjà, ça veut dire qu'elle était avant le commencement. Ce qui correspond à l'idée du texte, enfin voilà. Mais c'est pas dit comme ça, littéralement. Donc on ajoute quelque chose dans l'intention de rendre le sens. Je voudrais relever que sur le plan du principe, cette façon de faire trouve probablement un précédent dans ce que fait Jésus lui-même. Et en disant ça, je ne veux pas plaider, il faut choisir une traduction et équivalence dynamique. Je dis juste qu'on observe ça, il me semble, dans la Bible elle-même. Et c'est frappant de voir la façon dont Jésus reprend un texte de l'Ancien Testament qui nous est très très familier, pour ceux qui sont familiers de la Bible. C'est un texte fondamental. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Quel est le plus grand commandement ? Voilà, c'est pour ça que je parle de texte fondamental. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, citation de l'Ancien Testament. Jésus reprend ce texte. Justement, on lui dit, mais c'est quoi le plus important dans la loi ? Et Jésus cite, enfin, je crois que c'est Jésus, oui. En tout cas, le texte, oui, en tout cas, c'est Jésus qui parle dans Marc. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et on voit tout de suite ce qui se passe. Dans l'original hébreu, trois mots. Dans la traduction, dans ce que j'ai, quand Jésus cite, quatre mots. Donc Jésus ne fait pas de la traduction littérale. En tout cas, il ajoute un mot, le mot intelligence. Pourquoi ? Eh bien, j'ai envie de dire, nous lui demanderons quand nous le verrons. Mais c'est peut-être et probablement parce que l'idée d'intelligence qui se trouvait dans un mot, dans un des mots hébreux, mais quand le mot est traduit en grec, eh bien, ce sens-là, cette connotation disparaît. Donc du coup, pour rendre le sens du texte original, eh bien, il faut peut-être ajouter un mot en plus. Sinon, on perd quelque chose. Donc ici, le sens prend le pas sur la forme. Pour éviter que quelque chose se perde, il faut rajouter quelque chose à la forme. Et puis, on entend du coup que l'intelligence, elle fait partie de la foi. Ce qui n'est pas sans importance. Alors, je dis juste que donc il y a les deux pôles, hein, la forme, le sens. Dans la pratique, les traductions françaises essaient de... Donc il y en a qui choisissent vraiment la forme à 100%, d'autres qui choisissent vraiment le sens, surtout. Mais dans la pratique, la plupart des traductions françaises sont un petit peu entre les deux. Je vous montrerai une diapo là tout à l'heure. En tout cas, parmi les traductions... Oups, c'est celle-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là ? Des bêtises. Traduction littérale, voilà les traductions plus littérales, traduction plus qui essaie de rendre le sens, semeur, parole vivante, et puis pas mal entre les deux, voilà, et puis en même temps, toute celle-là essaie de conjuguer un peu les deux. Donc parmi les traductions à équivalence dynamique, eh bien il y a, on les voit ici, hein, c'est celle-là, il y a la Bible du semeur, il y a la Bible en français fondamental, par exemple. J'ai presque fini et je vais vous laisser la parole après. Oups. Alors, vous avez peut-être vos préférences. Très bien. Il y a des partisans acharnés des traductions littérales et il y a des partisans acharnés de l'équivalence dynamique. Et ils se livrent entre eux des débats acharnés. Je voudrais juste dire que la plupart des traductions françaises sont correctes. L'exception, ce serait la Bible proposée par les témoins de Jéhovah. Voilà. Donc sinon, je laisse de côté, il y aurait peut-être d'autres, mais sinon, si je laisse ça de côté, les traductions françaises, toutes les traductions françaises, sauf, sont correctes, et la plupart, et toutes les traductions françaises aussi, sont faillibles. Voilà. Et pour moi, en fait, le facteur déterminant, peut-être pour lire la Bible et pour l'offrir, c'est pas tant la façon dont on a traduit, mais c'est plutôt qui est-ce qui va la lire, à qui est-ce qu'on donne cette Bible. C'est le lecteur et c'est les capacités du lecteur. L'essentiel de mon point de vue, bon, je pourrais plaider bibliquement, je donnerai un mot tout à l'heure, mais c'est que la personne ait une Bible qu'elle soit capable de lire et de comprendre, tout simplement. Et peut-être même de lire avec plaisir aussi. Pour moi, c'est ce critère-là qui est déterminant pour choisir une Bible à offrir à quelqu'un. Quel est le niveau de français de la personne ? Et là encore, on peut ranger les Bibles un petit peu dans... Voilà, ceux qui ont un niveau de français élevé ou qui ont un français plus daté, on sent que c'est ancien, ben c'est celle-ci, hein. Darby, Jérusalem, etc. Donc, voilà, et puis des fois. Donc là, c'est plus exigeant. Et puis là, on a les traductions qui sont moins exigeantes, qui sont plus faciles d'accès. Donc la Bible en français fondamental, parole de vie, avec 3000 mots de vocabulaire, par exemple. Donc cette traduction-là, parole de vie, français fondamental, c'est vraiment idéal pour des personnes qui ont de la peine avec le français. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui est capable de lire même Rabelais dans le texte, hein, ça c'est le français du 17e, 16e, j'en sais trop rien, et bien la Bible d'Arby, c'est idéal. Donc ce qui me paraît important, autant que possible, c'est qu'on s'attache à une traduction qu'on peut lire, qu'on peut comprendre et qu'on a plaisir à lire. Peut-être alors ni trop facile, ni trop difficile. Donc une question de goût, mais ça dépend, c'est lié à chacun. Et puis je recommande pour les personnes qui sont peu familières de la Bible plutôt une traduction à équivalence dynamique qui essaie de rendre le sens. Si vous êtes plus avancé dans la familiarité biblique et si vous voulez coller plus davantage à l'original, je recommande une version plus littérale. Et puis si vous voulez étudier, je vous recommande de mettre les deux, de lire dans les deux versions et de faire des comparaisons. Voilà ce que je voulais vous dire en ouverture et je réponds à quelques questions, si vous en avez, avant de clore. Oui. De la version ? Oui, j'ai pas parlé de la version Osterwald. Vas-y. Alors, je ne sais pas tout à fait situer chronologiquement la version Osterwald. Elle a été traduite, je pense, à la fin du XIXe siècle, sauf erreur de ma part, par un pasteur suisse qui s'appelait Osterwald. Je crois que il y a peut-être des choses inexactes que je dis. Donc, j'ai des traductions plutôt anciennes. Hein, je dirais probablement plus proche des traductions littérales. Elle a été rééditée, peut-être elle a été révisée. Ça, je ne sais pas. Il faut savoir que ces deux options, équivalence dynamique ou équivalence formelle, c'est surtout dans les années 1950 qu'on a commencé que la science de la traduction a progressé, indépendamment de la Bible, hein, et que les traductions équivalence dynamique, ça commence dans les années 1950. Donc je dirais date de la fin du 19e siècle, et puis donc plutôt un français plus ancien et plus proche du texte original. Si ça va. Oui, j'avais cru voir une main tout à l'heure. Oui, c'est ma femme. Bonjour. Alors peut-être il y a une période où oui, il y a, en tout cas aujourd'hui, la plupart des traductions qui sont sur le marché, on part des originaux. Et c'est plus... Alors, je sais pas, tu veux dire autre chose? Non. c'est plutôt côté catholique, à cause d'un héritage historique, qu'on a parfois traduit à partir du texte latin. Donc on a traduit à l'époque, tout le monde, enfin à l'époque en Europe, tout le monde parlait latin, donc la Bible latine, nous on parle français, donc on a du latin. Voilà, mais à l'époque, avant qu'il y ait le français, ben on parlait latin. Et donc on avait une traduction en latin. Et parfois cette traduction latine a été traduite en français aussi. Mais en général, voilà, les traductions catholiques aujourd'hui sont sur les originaux. Toutes. Et ce n'est pas une question dénominationnelle. Alors, exception faite, mais je reviens sur les témoins de Jéhovah, je ne sais pas. Enfin bref, la Bible qu'ils avaient pendant plusieurs années, jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans, et c'est comme ça pour toutes les Bibles des témoins de Jéhovah. Les traducteurs, pour la plupart d'entre eux, ne parlent pas le grec et l'hébreu. Et du coup, donc ça avait été traduit en anglais. Donc les traductions des témoins de Jéhovah, la plupart du temps, étaient les traductions du texte, de la traduction anglaise. Donc on prenait la traduction anglaise et on le versait en français. Alors bon, avec... il faudrait nuancer. Donc ils ont fait une autre traduction il y a 3 ans que j'ai. Là, je vois qu'ils ont dû calquer l'anglais encore davantage. Mais je ne l'ai pas regardé de près. Gilles. Oui. Dès qu'il y a, je ne sais pas si je vais répondre, mais là, si je vais répondre comme tu l'attends, je dirais que dès qu'il y a un traducteur, il y a des choix. Donc ce choix, alors pour le grec et l'hébreu, donc en même temps, les personnes qui traduisent sont souvent des personnes qui sont familières de ces langues. Donc elles rendent au mieux au niveau du sens, il n'y a pas de problème. En même temps, il est possible qu'en faisant le choix, par exemple, parole ou bien verbe, qu'on ait privilégié un mot qu'il n'aurait peut-être pas fallu privilégier. Donc je dirais globalement, je pense qu'on peut avoir une grande confiance dans les traductions. Je crois que ce qui peut nous aider aussi à nous qui parlons pas les langues originales, à nous situer, c'est de regarder plusieurs traductions, parce que là on voit un certain nombre de choses, on dit tiens, là c'est vraiment différent, qu'est-ce qui fait que... Donc là on peut se dire il y a vraiment des... Vraiment le texte d'origine, là, du coup, pour avoir une si grande différence, c'est qu'il y a une question qui se pose. La plupart du temps, c'est des choses qui sont équivalentes. Jésus marcha le long de la mer, Jésus marcha au bord de la mer, bon, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc je dirais, donc traduction toute bonne, toute faillible au sens où il y a des erreurs possibles, mais là, on peut le compenser en regardant plusieurs traductions. Je ne sais pas si ça répond assez à ce que tu veux dire. Alors, je rebondis juste sur l'aspect témoin de Jéhovah, parce que je pense que la question se pose surtout là. La traduction des témoins de Jéhovah, enfin l'ancienne version que je connais, et puis j'ai eu la chance d'écouter un des traducteurs qui avait quitté le mouvement, mais peu importe. Mais il était très précieux parce qu'il a vu comment ça s'est fait. Il connaissait le traducteur, donc voilà, il en parlait de première main. C'est souvent une traduction littérale, il disait intéressante, elle colle souvent. Voilà. En général, il n'y a pas de souci. Il y a du souci pour les textes, justement, comme Jean 1, en disant « Au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Et là, pour les témoins de Jéhovah, Jésus n'est pas Dieu, donc la parole était Dieu. Pour eux, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Donc, ils mettent, enfin, dans la traduction d'aujourd'hui, ils mettent la parole était un Dieu. Et là, je dirais, on peut parler de... Donc c'est un choix qui est lié à une idéologie, si je puis dire, hein, à des convictions, je vais le dire plus proprement, à des convictions. La difficulté, c'est que là, on n'est plus dans une traduction. On est dans... c'est une traduction qui rend ce qu'on a envie d'y voir, mais quelqu'un qui parle le grec, il dit non. Donc là, il y a une dimension idéologique qui est plus présente. C'est pas de la traduction telle quelle. Et c'est pour ça que là, on peut dire, là, il y a quelque chose qui est pas juste. Un Dieu. Parce que, en effet, pour les témoins de Jéhovah, Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu pleinement. On peut parler de lui comme un Dieu, mais il a été créé. Donc traduire un Dieu, c'est très bien. Enfin, ça correspond à leur perspective. Oui, mais ça, le Nouveau Testament, à certains moments aussi, parle de Satan comme le Dieu de ce siècle, c'est 2 Corinthiens 4. Hein. Donc on peut l'employer, même dans la Bible, on peut employer le mot Dieu, voilà, ça dépend du contexte. Je prends une dernière question, parce que je vois que l'heure avance. Vas-y. Alors, c'est quand tu emploies le mot « à partir ». Bref, on traduit... Alors, je rassemble mes idées. On traduit toujours, enfin, dans la mesure du possible, et c'est aussi une autre exception, je reviens avec ce que disait Annelise, les personnes qui vont traduire pour une ethnie qui n'a pas la Bible dans sa langue vont traduire « à partir de l'hébreu et du grec ». Dans la majorité des cas. Il y a parfois des cas où les seuls traducteurs qui comprennent la langue de la, voilà, ne parlent pas l'hébreu et le grec. Donc là, on peut partir d'une traduction en français, en anglais. Donc ça, c'est la langue source. C'est normalement toujours le texte hébreu ou le texte grec. Après, il y a la langue cible. Donc là, je traduis l'hébreu et le grec dans la langue. Et ça, c'est la langue de l'ethnie en question. Ça va comme ça? Ok. Alors je propose quelques mots pour conclure et puis je suis disponible pour continuer à dialoguer. J'appelle ça transmettre. Je voudrais en fait relever en concluant quelques traits qui me paraissent importants. Et la première, peut-être ça va de soi, mais je suis frappé de voir que Dieu a choisi de parler. Imaginez qu'on n'ait pas la Bible. On fait comment? On n'est pas là déjà, enfin, je sais pas. Dieu a choisi de parler aux êtres humains. Il a choisi de se faire connaître, de faire connaître qui il est, quel est son appel. Il a choisi de le faire au moyen de ses porte-paroles, par son esprit, et il a choisi de le faire par le truchement de l'écriture. Ça, c'est entendre quelque part que Dieu veut la relation avec nous. Je vais le dire autrement, on n'a pas affaire à un grand horloger qui a mis le monde en marche et puis qui maintenant est très très loin. Et puis c'est pas un message codé qu'il nous envoie. Je suis frappé en regardant la composition de la Bible, une partie en hébreu, une partie en grec, de voir que Dieu s'adresse aux êtres humains en parlant leur langage. Dans le monde de l'Ancien Testament, dans le monde de l'Ancien Israël, toute cette partie-là de la Bible, eh bien, il emploie la langue de l'ancien Israël, il parle hébreu ou araméen. Il y a quelques passages, une vingtaine de chapitres en araméen. Et dans le monde du Nouveau Testament, il n'oblige pas ceux qui ne parlent pas hébreu à apprendre l'hébreu. Nous avons un Nouveau Testament, dans l'original, qui est écrit en grec. Et c'est la langue qu'on parlait à l'époque dans tout le bassin méditerranéen. Et aujourd'hui, eh bien, sauf si vous apprenez les langues bibliques, eh bien, Dieu s'adresse à nous aussi au travers de ses Bibles, ses traductions. Dieu ouvre la relation avec nous, il nous adresse la parole. On peut dire Dieu, je le dis autrement, il n'est pas indicible. L'indicible, on peut rien dire de lui. Même si on ne doit pas imaginer pour autant qu'on saurait tout de Dieu, parce que nous avons des mots pour en parler. Comme je crois d'ailleurs qu'on aurait beaucoup de mal à penser pouvoir dire tout de l'un d'entre nous, je prends au hasard Catherine qui était juste devant moi. Est-ce qu'on sait tout de Catherine? Est-ce qu'on est capable de maîtriser Catherine, si je peux employer ce langage, parce qu'on a des mots pour parler d'elle? Je crois pas. Et alors de Dieu? Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, quand Dieu parle en grec, il utilise des traductions de l'Ancien Testament faites en grec. Autrement dit, je l'ai dit déjà, il ne demande pas qu'on appelle l'hébreu. Et on voit ici, du coup ça pourrait faire écho à une partie de ce que disait Gilles, que ce n'est pas parce qu'une traduction n'est jamais l'équivalent exact, c'est impossible, de l'original, que ça pose problème. Jamais dans le Nouveau Testament, les auteurs nous disent « Oui, moi, je le dis comme ça, mais en fait, on ne peut pas vraiment comprendre, c'est pas ça dans l'original. » Non, c'est juste présenté comme ça. Ils nous disent en grec des choses qui étaient dites en hébreu. Ce qui est important, c'est que le sens soit dit. Et le sens, eh bien, on peut le dire en hébreu, on peut le dire en grec, on peut le dire en français, on peut le dire en chinois, on peut le dire dans n'importe quelle langue. Et on le voit très bien. Cette importance du sens, on la voit très bien dans l'évangile de Jean. Alors je donne qu'un exemple. André trouve d'abord son propre frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit, le Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Toi, tu es Simon, fils de Jean. Eh bien, tu seras appelé Céphas. » Ce qui se traduit, Pierre. Et on peut très bien dire la même chose. Ce qui est interprété, le Christ. Ce qui est interprété, Pierre. Et on pourrait citer d'autres exemples comme ça dans l'évangile de Jean, c'est régulier. Enfin. Donc ce qui est important, c'est que le sens soit dit. Et on voit que c'est Jésus, quand il traduit le texte de Deutéronome, par exemple, on voit que ce sont les auteurs bibliques, c'est la Bible elle-même, qui initie le processus de traduction, qui initie le processus d'interprétation. Eh bien, j'ai envie de nous dire, aujourd'hui, dans la même lancée, nous sommes appelés, nous aussi, à prendre connaissance de la parole de Dieu, en français, à la méditer, à la ruminer, à la comprendre, et ensuite à la transmettre, à la traduire à nos proches. Et peut-être ils ouvriront jamais la Bible, mais on peut essayer de leur dire ce qu'on trouve dans la Bible. On la leur traduit en disant ça. Nous en sommes l'interprète auprès d'eux. Et nous pouvons le faire chacun à sa façon. De même que Jean l'a fait à sa façon, une façon qui n'est pas exactement la même que celle de Matthieu, que celle de Marc, que celle de Luc. Vous remarquerez que c'est pas raconté pareil. Ça veut dire que le sens, on peut le dire de différentes façons. De même, traduire un verset biblique, on peut traduire de différentes façons. Mais l'important, c'est de dire le sens. Et ça nous est peut-être arrivé à tous, on veut dire quelque chose, on ne trouve pas le bon mot, mais on trouve un moyen de se faire comprendre. Et puis, j'en termine là, l'important, c'est que le sens soit transmis de manière compréhensible, et c'est bien de cela que Jean a le souci. Il mesure que si on est juste laissé avec tel ou tel mot, ces mots-là, mais pour le lecteur, s'il lit le Messie, ben c'est de l'hébreu pour lui. S'il lit Céphas, c'est de l'hébreu pour lui. Alors il traduit. Il explique, il utilise des mots que ses lecteurs peuvent comprendre. J'ai envie de nous dire, nous aussi, transmettons ce que nous avons reçu, compris, de manière compréhensible. Et j'ai envie de dire, efforçons-nous-y en tout cas, de tout notre cœur, d'une bonne partie de notre âme, de toute notre âme, de toute notre intelligence et de toute notre force. Je vous invite juste à un moment de silence. Merci de nous adresser la parole. Merci de nous dire qui tu es. que ta parole habite en nous, abondamment, chacun d'entre nous, qu'elle porte chacun d'entre nous cette semaine dans les défis, dans le quotidien, qu'elle nourrisse chacun de nous, ici.